catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Merci pour votre fidélité à la fréquence mariale, amis auditeurs de Radio Maria. Bienvenue à la catéchèse de ce jour. Bonjour Père Roger.
Et bonjour, Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous.
La prière de demande, le sujet du jour.
La prière de demande, hein, c'est le sujet du jour et nous allons en parler tout à l'heure, hein, comme annoncé depuis ce matin.
Derek Mamba et Radis qui assurent la régie vont nous proposer le chant à l'esprit et on va prier avant de démarrer les enseignements. Merci pour ces cantiques à l'esprit, la prière de demande, les sujets du jour. Père Roger, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. La prière des demandes, hein, nous l'avons annoncée depuis ce matin, peut-être même depuis deux jours. Pourquoi la prière des demandes? C'est pour prolonger la réflexion sur l'évangile du dimanche passé, où il y avait deux messieurs qui priaient au temple, les pharisiens et les publicains. Et la prière du publicain a été agréée par Dieu. C'est-à-dire, comme dit Jésus, il est devenu juste. C'est-à-dire, il est devenu digne d'être sauvé, comme dira Jésus à la fin de cet évangile. Hein, Luc 18, de 9 jusqu'à 14. Alors, voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui et prolonger cette réflexion sur la prière de demande. En fait, il y a plusieurs formes de prière. Dans les catéchismes de l'Église catholique, on énumère au moins 7 ou 8. Il y a la prière d'action des grâces, la prière de bénédiction, la prière de louange, la prière de demande, la prière de supplication, la prière d'adoration. Donc, plusieurs formes de prière. Et les chrétiens devraient savoir quelle est la particularité de chaque prière. Et parfois, c'est si proche, les nuances sont à peine perceptibles qu'on peut confondre l'une et l'autre, comme la louange et l'adoration. Parfois, on confond les deux formes de prière. Nous en avions parlé il y a quelques années quand nous étions encore de l'autre côté à Kitambo. Que signifie louer le Seigneur? Que signifie adorer? Mais aussi, que signifie rendre grâce? Et que signifie bénir? Parce qu'il y a aussi la prière des bénédictions, c'est-à-dire bénir Dieu. Quand on bénit Dieu, c'est quoi? Quand on loue Dieu, c'est comment? Quand on l'adore, c'est comment? Et puis, quand on lui rend grâce, c'est comment? Donc, le catéchisme donne des précisions sur les différentes formes de prière. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière de demande, qui est très proche de la prière de supplication, mais ce n'est pas la même chose. Supplier, c'est demander de façon intense, parce que le besoin est urgent. Devant des cas extrêmes, là ce n'est plus la prière de demande. Quelqu'un est en agonie, vous n'allez pas formuler une prière de demande, mais une supplication, parce que c'est urgent, il peut mourir à tout moment. Et donc il faut supplier. Et que signifie la prière de supplication? Nous reviendrons là-dessus le jeudi. Aujourd'hui, c'est d'abord la prière de demande, qui se caractérise par trois choses. D'abord, un besoin. Vous avez un besoin, ça peut être un besoin matériel, ça peut être aussi un besoin spirituel, parce que nous sommes corps et âme, ne l'oublions pas. Et donc, quand nous prions, il y a ces deux dimensions de notre existence qui entrent en jeu. Tantôt nos demandes sont d'ordre spirituel, tantôt c'est d'ordre matériel, parce que nous avons aussi un corps, et le corps a besoin justement de vivre, de survivre, le corps a besoin de la nourriture, des vêtements, le corps a besoin d'un endroit pour se reposer, pour dormir. Mais il y a aussi l'âme, c'est-à-dire le spirituel. Donc notre cœur, on peut demander des grâces d'ordre spirituel, la conversion, donnez-moi la paix du cœur, donnez-moi la capacité de pardonner, la capacité de demander pardon, donnez-moi la grâce de vaincre mon péché dominant. Ça, ce sont des demandes d'ordre spirituel. Alors, il y a d'abord un besoin. Vous avez un besoin qui est en face de vous, que vous éprouvez. Ça peut être, comme j'ai dit, sur le plan spirituel ou matériel. Alors maintenant, quand il y a le besoin, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, ça dépend de chacun. Il y en a qui ne prie pas. Alors, devant un besoin pressant, bon, il va faire ce qu'il peut faire. Il peut peut-être aller chez le féticheur. Il peut peut-être aller chez un magicien. Parce que, bon, lui, il croit que là, il peut trouver une solution à ses problèmes. Alors, celui qui prie, celui qui est croyant, qui est chrétien, devant un besoin, eh bien, il recourt à Dieu. Et ce qui nous lie à Dieu en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi. C'est au nom de la foi que, face à un besoin, je me tourne vers Dieu pour formuler ce qu'on appelle la prière de demande. Parce que je crois en Dieu. Et la foi, c'est en fait le fait d'accueillir Dieu dans notre vie. La foi, ce n'est pas tellement, comment je peux dire, c'est pas tellement croire au sens objectif du mot. Donc Dieu est quelque part, moi je suis ici et puis je crois en lui. La foi exprime déjà la communion profonde avec Dieu. Donc comme je sens que je suis en communion profonde avec Dieu au nom de ma foi, alors je n'ai pas de choix. Devant tel besoin matériel ou spirituel, je me tourne vers lui. Je n'ai pas de choix. Donc c'est ça. Hein. Donc il y a le besoin et puis il y a ma foi. Et au nom de cette foi-là, de cette communion profonde que j'entretiens avec Dieu, j'ai recours à lui pour lui demander ce dont j'ai besoin. Mais la prière de demande se caractérise aussi, et ça c'est le dernier aspect, avant de prendre un psaume hein, qui pourra illustrer ce que j'ai dit, se caractérise aussi par ce qu'on appelle la confiance filiale. Donc, parce que j'ai demandé à Dieu, je suis confiant. Je sais que Dieu va me donner ce que je lui ai demandé. La confiance filiale. On peut même mettre entre parenthèses l'espérance. Parce que cette confiance filiale engendre l'espérance. Et c'est ce qui fait que, comme il y a la confiance, j'ai demandé à Dieu, eh bien, je compte sur lui. J'ai fait ce que moi je dois faire, mais je compte aussi sur Dieu. Dieu va bénir mes efforts afin que je puisse satisfaire ce besoin, afin que je puisse répondre à cette attente qui est l'objet de ma prière de demande. Donc ça, c'est très important. Alors voilà pourquoi, après avoir demandé à Dieu, la confiance fait que je puisse patienter aussi. Donc cette confiance filiale engendre la patience. La prière des demandes, en fait, c'est tout ça, une certaine patience. Parce que Dieu agit quand il veut et comme il veut. La patience est vraiment la patience dans la confiance. Je n'ai pas à aller négocier d'autres voies. J'ai déjà demandé au Seigneur, après je vais corrompre. Non, là, c'est que vous n'avez pas la confiance en Dieu. J'ai demandé à Dieu, je ne vais pas corrompre. Il va m'aider, je fais ce que je fais. Je combats, je lutte comme les chrétiens, en tenant compte des valeurs que je dois promouvoir. Et puis, en même temps aussi, je demande à Dieu de bénir mes efforts pour que je puisse obtenir ce que je lui demande. Ça, c'est ce qui est la confiance qui entoure la prière de demande. J'ai confiance en Dieu, et donc il ne faudrait pas combiner. Je demande, mais en même temps aussi, je suis en train de corrompre pour avoir la même grâce que j'ai demandé à Dieu. Non. La confiance fait que, bon, je sais que c'est Dieu qui me donnera ça. Moi, je fais ma part et je demande à Dieu de bénir mes efforts pour que j'obtienne ce que je lui ai demandé. Donc, pratiquement, il y a le besoin, il y a la foi en Dieu, il y a la confiance qui fait que, bon, je suis calme. Comme dit le psalmiste, psaume 116, il dit, « Mon âme attend le Seigneur comme un veilleur attend l'aurore. » Donc, comme un enfant tout contre sa mère ou son père, mon âme attend le Seigneur. Donc, cette confiance-là, j'attends le Seigneur, il sait qu'il va agir. Et la confiance suppose la patience, suppose l'espérance. Donc, ce sont des éléments importants de la prière de demande. Hein. Le besoin que j'identifie, le besoin qui est évident dans ma vie, une attente à laquelle je dois répondre, et puis il y a la foi en Dieu. Il y a la confiance, il y a l'espérance qui est liée à cette confiance et puis la patience qui entoure la confiance. Donc voilà, ces quelques éléments qui sont très importants sont des attitudes, si vous voulez, qui doivent nous accompagner dans ce qu'on appelle la prière de demande. Alors maintenant, prenons un exemple d'une prière de demande. Le psaume 26, parmi tant d'autres. Voilà comment ce psaume commence, 26, selon la Bible liturgique. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Donc ça, c'est déjà, on voit, c'est quelqu'un qui a la foi. Il a la foi en Dieu. Donc, dès le début, il veut dire au Seigneur que si je me tourne vers toi, c'est parce que je sais que tu es ma lumière et mon salut. Voilà pourquoi je viens te demander. C'est-à-dire, il y a une introduction à cette prière de demande. Il ne vient pas directement, donne-moi ceci, mais il y a une introduction. Donc, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Alors, partant de cette introduction, maintenant, la demande commence à venir. Elle ne vient pas immédiatement, mais ça s'annonce progressivement. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. On comprend que ce qu'il veut demander, c'est quoi? C'est la protection. Mais il est en train de présenter déjà sa situation. D'abord, il glorifie Dieu en disant, « Tu es ma lumière et mon salut. » Tu es celui qui me protège face à mes adversaires, de qui aurais-je crainte? Après, il dit, s'ils s'avancent, ce sont eux qui vont perdre, ils vont succomber. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Voilà. Alors maintenant, voilà la demande. Quatrième chose, je vais demander une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ça, c'est sa demande. Donc, face aux menaces de ses adversaires, ce qu'il demande, c'est quoi? Il demande la protection, mais il demande quelque chose de mieux. Il dit, je vais habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que je sois toujours proche du Seigneur. Que je sois toujours en relation avec lui. Ça, c'est sa demande. C'est une demande qui est d'ordre spirituel, mais pour répondre à un besoin concret, c'est-à-dire la protection. Il ne s'attarde pas sur qu'il maudisse mes adversaires, tout ça, non. Il demande simplement que le Seigneur lui donne cette grâce-là, d'être en communion avec lui tous les jours de sa vie. C'est ce qu'il appelle habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Maintenant, voilà la confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève le roc. Ça, c'est les détails sur la demande. Il est tellement confiant qu'il dit, voilà ce que le Seigneur fera pour moi. Comme j'ai demandé d'habiter sa maison tous les jours de ma vie, il va me réserver un lieu sûr, surtout au jour de mon malheur. Il va me protéger. Il me cache au plus secret de sa tente, il me lève sur les rocs. Donc, il me cache pour qu'on ne me voie pas. Il me lève sur les rocs pour que je sois à un niveau plus élevé, si bien que mes adversaires ne pourront pas m'atteindre. C'est quelqu'un qui est sûr qu'il a déjà reçu ce qu'il a demandé. Et vers la fin, la prière de demande devient presque une action de grâce. En fait, la prière des demandes comporte déjà les germes de la prière d'action des grâces, parce que celui qui prie est sûr qu'il sera exaucé. Il commence déjà à dire merci au Seigneur vers la fin de sa prière. Alors voilà ce que dit le psalmiste. « Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente les sacrifices d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. » Voilà. Il a demandé, et comme il est sûr qu'il va obtenir sa demande, l'introduit déjà à l'action des grâces. Mais l'action des grâces est au futur, parce que ce n'est pas encore le moment. Il attend que la grâce vienne d'abord, et après il y aura l'action des grâces. Voilà pourquoi il dit, je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Là, c'est encore la demande. Pitié, réponds-moi. Ça nous rappelle un peu la prière de, des lépreux hein, qui se tiennent à distance et puis disent « Seigneur, Maître, Jésus Maître, prends pitié de nous » ou encore le publicain de Luc 18 qui dit tout simplement « Prends pitié de moi, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur que je suis. » Donc la demande de la compassion de Dieu, ça ne peut pas manquer dans une prière de demande. Parce que parfois, ce sont des péchés qui bloquent notre vie, qui nous empêchent d'accueillir des grâces. Alors quand on dit « prends pitié de moi », c'est le kyrie pratiquement, c'est comme qui dirait « pardonne mes péchés, prends pitié de moi malgré mes péchés, bien que je sois pécheur ». Donc Seigneur, écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Donc il y a presque alternance entre, vers la fin, entre action de grâce et demande. Parce que comme j'ai dit, la prière de demande débouche plus ou moins sur l'action de grâce, mais qui est encore au futur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Il précise la demande. Il dit, si je vais habiter dans ta maison, ce n'est pas seulement pour me cacher. Me cacher devant mes adversaires, mais aussi parce que je cherche ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Moi, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Donc, voilà, c'est un psaume qui est très, très intéressant. Parce que ce psaume, comme je vous ai dit, c'est une prière de demande qui est à la fois spirituelle et puis matérielle. Il a des adversaires. Il demande la protection. Je vais habiter la maison du Seigneur. Mais il demande aussi qu'on lui donne la grâce de chercher la face du Seigneur. Il lui demande aussi la grâce de se conduire comme il se doit devant le Seigneur. Et puis en même temps aussi, il commence déjà à louer le Seigneur, à lui rendre grâce en disant « Je fêterai le Seigneur dans sa maison. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur ici sur terre. » Merci.
Merci Père pour cette catéchèse. Un peu de musique avant de recevoir les auditeurs.
J'attendais à travers les saisons, gardant foi en ce que je savais. Dans le silence, Dieu préparait un amour que je découvrais. Je rêvais de quelqu'un de fidèle, avec un cœur tourné vers lui, sans savoir que mon avenir n'était qu'à une prière d'ici. Tu es ma prière exaucée, don du ciel tant espéré. Chaque mot murmuré vers les cieux m'a mené jusqu'à toi, je comprends mieux. J'attendais si longtemps, l'amour était là. Tu es ma prière exaucée. Quand les tempêtes nous entourent.
081 99 66 098. Le message de Arsène Ika. Bonjour Maman Régine, bonjour Père Roger, merci pour cette catéchèse. Demander avec confiance et foi, mon Père, mais à quel moment demander avec insistance comme dans la parabole de la veuve et les juges? Et cela ne nous renvoie-t-elle pas au manque de confiance?
Merci beaucoup pour la question qui vient de Lubumbashi.
Non, Arsenica de Kinshasa.
De Kinshasa. Donc, Dieu nous connaît, il sait. C'est lui qui nous a créés, corps et âme. Il sait que les humains sont parfois dans des besoins qui sont plus que urgents. Et voilà pourquoi il y a la prière de supplication. Donc, demande qui devient intense. Nous en parlerons le jeudi. La prière de demande tout court dont nous parlons aujourd'hui, c'est une prière qui se fait devant des besoins. Et tous les besoins en principe sont urgents, mais il y a des besoins. Par exemple, on vous dit, mais écoutez, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont en train de comploter contre vous. Ça, c'est juste un exemple. Bon, vous faites une prière de demande. C'est différent lorsqu'on vous dira que voilà, votre adversaire est à l'extérieur. Il est en train de voir comment entrer dans votre maison, peut-être par la fenêtre ou bien en détruisant la porte pour vous agresser. En ce moment-là, la prière de demande devient une prière de demande intense, ça devient supplication. Parce que le danger est imminent, on est face au danger. C'est différent de celui qui vient vous dire, écoutez, il faut faire attention parce que voilà, j'ai entendu ceci, cela. Donc il y a des besoins qui sont beaucoup plus urgents que d'autres. Ça, c'est clair. Quelqu'un, par exemple, dans sa vie, il voudrait absolument se convertir. Il fait la prière de demande. Il dit, donne-moi la grâce de me convertir. Parce que se convertir, c'est tout un processus. Ce n'est pas un acte ponctuel. On peut prendre une décision, ik het nu, c'est-à-dire ici et maintenant, mais pour que la conversion advienne réellement, il faut un processus. Et donc, ça fait partie de la prière de demande. Mais il y a des cas où je peux demander de façon intense, avec beaucoup d'insistance au Seigneur, de me libérer d'une tentation. Vous avez l'argent là-bas, mais dans vos poches, vous n'avez rien, mais il y a l'argent de l'entreprise entre vos mains parce que vous êtes caissier, vous êtes financier. Alors, en ce moment-là, vous n'allez pas faire la prière de demande pour ne pas voler, mais c'est vraiment une prière de supplication. Parce que les dangers sont imminents, vous êtes devant la tentation, et donc je demande de façon pressante au Seigneur de me protéger, de me donner la grâce de ne pas prendre l'argent d'autrui.
Deuxième question, quand on demande quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu selon le catéchisme de l'Église et qu'on ne l'a pas toujours, que faire?
En fait, la prière de demande, même si on ne l'a pas dit, doit être toujours ouverte à la volonté de Dieu. Et vous l'avez remarqué dans les psaumes 26 que nous avons parcouru tout à l'heure avec vous, comment cet homme-là, celui qui prie, suppliant ou l'orant, le psalmiste, demande au Seigneur de l'aider à chercher sa face. Et c'est ça aussi, chercher la volonté. Donc je cherche ta face, habiter ta maison tous les jours de ma vie pour chercher ta face, ainsi de suite. Donc c'est pour chercher sa volonté. C'est-à-dire que chaque prière de demande est une ou doit être ouverte à la volonté de Dieu. Et saint Augustin le disait, lui il disait même que bon, en fait, la prière de demande consiste tout simplement à demander au Seigneur de désirer ce qu'il veut nous donner. C'est ça la vraie prière de demande, que je demande au Seigneur de m'aider à désirer ce qu'il veut me donner. C'est-à-dire, je demande au Seigneur de m'aider à accepter ce qu'il veut me donner. C'est ça la meilleure prière de demande, selon Augustin d'Hippone.
081 99 66 098. Bonjour Maman Régine Bahia, bonjour Père Roger. Merci pour la catéchèse du jour. Père, souvent nous manquons de confiance en Dieu et quand nous formulons une demande, souvent nous perdons vite patience et surtout devant un cas difficile. Cela nous pousse à consulter les marabouts, à faire appel aux pasteurs des églises de réveil. Père, voir certains prêtres accepte que ces derniers leur imposent les mains sur la tête. C'est triste et désolant pour les catholiques que nous sommes. Maman Odette, voilà, depuis...
Qui a demandé, ouais, donc, le prêtre a demandé qu'on lui impose les mains, oui. Par qui?
Par les pasteurs, je crois, de l'Église.
Bon, merci à maman Odette, professeure Odette. Bon, ce serait bien dommage. Si ça arrivait, ce serait bien dommage. C'est-à-dire, bon, le prêtre a peut-être oublié ce qu'il est ou bien ce qu'il a comme grâce dans sa vie. Mais voilà ce que dit le psalmiste. Hein. Je reviens au psalmiste parce que c'est un exemple qui est très, très concret. Ce qu'il dit à la fin de ce psaume. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ça, c'est la confiance qui doit caractériser celui qui demande. que le Seigneur lui donne ce qui est conforme à sa volonté, ou bien, c'est-à-dire ce que vous allez recevoir de la part du Seigneur, que ça soit conforme à la volonté de Dieu et non conforme à vos désirs, ou que ça soit conforme à vos désirs et à la volonté de Dieu, peu importe. Mais la confiance se résume en ceci: je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. C'est-à-dire, tôt ou tard, je peux ne pas recevoir maintenant, mais je sais que tôt ou tard, Dieu va me donner. Et parfois, Dieu écrit droit avec des lignes qui sont courbes. Quelqu'un qui a un problème au tribunal, il prie pour que ça passe, et puis finalement, on l'a condamné, il va en prison. Il a l'impression que Dieu ne l'a pas exaucé. Mais la prison, c'est un détour que Dieu prend dans sa vie pour que, partant de la prison, il puisse le lever. Et puis un jour, il quitte la prison, le voilà dans la société, et puis il va franchir les échelons dans la vie. Bon, pas nécessairement sur le plan social, parfois en termes de maturité spirituelle. Il va grandir à cause de l'expérience faite en prison. Alors finalement, il va comprendre que j'avais demandé ça au Seigneur. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, il avait demandé, quand il allait au tribunal, que le Seigneur l'aide, qu'il ne soit pas condamné, qu'il n'aille pas en prison. Mais contre toute attente, lui qui avait demandé que le Seigneur puisse le préserver de la prison, il se voit emprisonné. Il a l'impression que Dieu ne l'a pas exaucé. Alors Dieu voudrait qu'il passe par cette voie-là. C'est un détour qu'il va prendre pour qu'un jour, voilà, il atteigne un objectif qui est beaucoup plus noble, beaucoup plus précieux sur le plan social, sur le plan spirituel. Il va se rendre compte qu'en fait, le Seigneur n'avait pas refusé sa prière. Il a exaucé, mais seulement que Dieu agit comme il veut et quand il veut. Voilà pourquoi les psalmistes, au psaume 26, dit « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » Donc écrivez cela quelque part. Dans votre cellule en prison, écrivez. Et quand vous demandez, dites que « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » Il va répondre à ma demande. Ça pourrait être ce que je veux. Peut-être c'est que je ne veux pas, mais que lui veut. Mais dans tous les cas, ce sera l'expression de sa bonté. Il sera bon. Il va se manifester, sa bonté va se manifester dans ma vie. Ça, c'est la confiance qui doit accompagner celui qui formule la prière de demande. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 26, 13e verset.
On va écouter Maman Christine Changa Changa Bokongo.
Bonjour mon père, et bonjour maman Régine. Mon père, j'ai suivi les enseignements de tantôt, un grand merci pour ces éclaircissements. Mais en dépit de tout cela, j'ai quand même une petite question qui m'est venue en tête, prière des demandes. Aujourd'hui, c'est le jour de Saint Jude. Mm-hmm. Et on l'appelle patron des cas désespérés. Je ne connaissais pas que c'était comme ça.
Oui, oui.
Mais par l'entremise d'une de mes filles, elle m'a dit, maman, c'est très important, faisons ensemble, je connais, j'ai l'expérience. J'ai dit, bon, ok, d'accord, la prière, on refuse pas. Et comme aujourd'hui, c'est les 28 de son jour, et elle se dit, moi, je dois aller à la messe matinale en signe d'action des grâces déjà, par rapport à mes demandes.
Ah oui.
Donc, elle a tellement confiance. J'ai dit, bon, maintenant, je me dis, mais il y a aussi Sainte Rita, le 22 mai. Il y a une amie à moi, retraitée comme secrétaire générale, elle ne parle que de Sainte Rita. Elle m'a dit, j'ai eu tellement beaucoup de faveurs par cette intercession-là. Mon père, juste, je voulais comprendre. Nous faisons les rosaires, nous disons, nous combattons dans la victoire avec Jésus, parce que Marie nous amène à Jésus, elle intercède. Quand Marie intercède, Jésus cède. Et nous avons souvent nos demandes. Mon père, est-ce qu'il y a moyen de me faire ces parallélismes-là pour dire, je prie sans passer par l'intercession de saints, de Marie, mais je fais confiance en Dieu, j'ai la foi et j'attends. Déjà, je peux commencer mon action de grâce en signe de tout cela. Mmh. Ou alors, passer par l'intercession Ça devient une autre forme de demande spéciale ou s'il y a moyen de nous éclairer un peu, mon père. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à maman
Merci
Christine.
beaucoup à maman Christine. Évidemment, la question ne se pose pas pour nos frères d'autres églises hein, qui ne sont pas catholiques. Hein. Et donc, pour eux, il faut s'adresser à Jésus, il faut s'adresser au Père, à l'Esprit Saint, et puis c'est fini. Alors, pour nous, évidemment, bon, nous professons ce qu'on appelle la communion des saints. Je crois à la communion des saints. Et quand nous prions, nous sommes en communion avec cette église hein, triomphante au ciel. Et c'est ce qui fait que nous demandons l'intercession des archanges, des anges, des saints, des bienheureux qui sont au ciel. Ça, c'est typiquement catholique, et même les orthodoxes aussi, ainsi de suite. Alors, maintenant, pour mieux comprendre ça, en fait, je prends un exemple tout à fait simple. C'est-à-dire que dans notre vie, quand vous avez un problème, il n'est pas exclu que vous mettiez à profit plusieurs intervenants. Ce n'est pas exclu. Que j'ai un problème, j'ai un dossier quelque part, je parle vraiment, je donne un exemple concret pour que je me fasse comprendre mieux. J'ai un dossier quelque part. Je m'adresse au chef, n'est-ce pas, qui doit résoudre ce problème-là. Mais bon, il n'est pas exclu que je parle avec son dircab, pas pour le corrompre, pour dire, écoutez, bon, il y a tel dossier, est-ce qu'il y a lieu d'en parler peut-être dans vos réunions? Bon, je peux aussi. En fait, c'est un peu cela, que je m'adresse à Dieu. Mais je peux demander le concours de tous ceux qui sont au ciel en communion avec lui. Donc, ça c'est notre foi. Les psalmistes se trouvent dans un contexte où ils s'adressent à Dieu. Ça, c'est le psaume 26. Mais déjà, dans le Nouveau Testament, on voit apparaître déjà ces formes de médiation, des médiations humaines entre la divinité et les humains. Vous avez, bon, même dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes prient pour le peuple de Dieu. Il est intermédiaire entre Dieu et son peuple. Les prêtres aussi prient comme intermédiaire entre le peuple juif et puis Dieu. Et dans le Nouveau Testament, vous avez l'intercession de Marie, notamment aux noces de Cana. Vous avez toutes ces personnes-là qu'on conduit à Jésus, des malades qu'on conduit à Jésus par des intermédiaires. Des malades qui ne peuvent pas aller chez Jésus eux-mêmes, mais on les amène. Ils sont là en Marc 1. Après la guérison de la belle-mère de Pierre, dans Marc 1, les gens emmenaient les malades auprès de Jésus. Donc, il y a déjà des médiations humaines entre Jésus et ceux qui sont dans le besoin. Et c'est justement la communion des saints, c'est le prolongement dans l'au-delà de ces médiations humaines entre Dieu et nous. Donc, je m'adresse à Dieu, mais je mets à profit aussi tous ceux qui vivent déjà au ciel et qui sont en communion avec Dieu. Ça, c'est notre foi catholique. Et donc, le fait que j'ai fait ma demande à Dieu par Jude ne m'empêche pas de parler directement avec Dieu. Parce que si vous allez la neuvaine à Saint-Jude, et c'est vrai, je confirme hein, ce que notre fille vous a dit, c'est vrai que Jude, Saint-Jude, c'est parmi les saints des cas impossibles, des cas désespérés. Comme Sainte Rita aussi. Il y a même une neuvaine, hein, publiée par les éditions Médiapôle il y a quelques années, neuvaine à Saint-Jude. Il y en a, hein, donc, maman Christine, si vous passez les vendredis, je pourrais vous remettre cette brochure-là, neuvaine à Saint-Jude, ça existe. Parce que justement, depuis l'Antiquité, on le vénère comme saint des cas désespérés, des cas impossibles, bien avant même Sainte Rita, qui est aussi, et ça je confirme, la sainte des cas désespérés ou bien des cas jugés impossibles. Et donc, c'est comme cela. La prière de demande ne m'empêche pas de passer par le truchement d'autres saints. Parce que dans la neuvaine, si vous priez la neuvaine à Saint-Jude, il y a des moments où vous allez dire Notre Père. Et quand vous priez le Notre Père, vous vous adressez directement au Père, sans passer par des saints. Mais il y a des moments où vous allez faire la prière à Saint-Jude pour solliciter son intercession pour le même cas que vous présentez au Père.
081 99 66 098. On écoute aussi Félicien Katumba qui nous a fait un audio.
Bonjour, bonjour mon père, bonjour mon père, bonjour maman Régine.
Bonjour.
Merci beaucoup pour la catéchèse du jour, mon père. Sans tarder, voici mes questions. N'est-ce pas les prières le plus difficile à faire?
sont celles d'intercession, prier pour les autres, et celles prier, celles de demander pardon pour ses ennemis. N'est-ce pas, ces deux prières sont tellement difficiles à faire. Ma deuxième question, les chemins de Dieu n'étant pas nos chemins, que pouvons-nous vraiment demander au Seigneur? Car tu peux demander à Dieu A, il te donne B. On lui demande aujourd'hui, et lui peut vous donner même, peut te donner même après une année, 2 ans, voire 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, mon père. Comment expliquer ça? Ma troisième et dernière question, le support de la foi ou de l'espérance peut être quoi, mon père? Car nous voyons Habacuc se plaindre. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? N'est-ce pas la foi d'Habacuc aussi déjà, mon père? Merci beaucoup pour la catéchèse du jour. C'est Félicien Katumba de Marie de la paroisse Saint-Pédis-Nyengeri. Bonne journée à vous.
Merci, Félicien.
Merci beaucoup à notre frère Félicien depuis Saint-Pédis, hein, ici à Kinshasa. La prière d'intercession, c'est une prière qui est transversale. Parce que l'intercession apparaît dans la louange, dans l'adoration, l'intercession apparaît dans la bénédiction, l'intercession apparaît ou peut apparaître dans la prière de demande, de supplication, ainsi de suite. Donc c'est une forme de prière qui est transversale. Il n'y a pas une prière d'intercession en elle-même. C'est toujours lié à l'une ou l'autre forme de prière traditionnelle que l'Église nous propose. Donc, quand tu demandes dans ta prière des demandes, tu peux intercéder pour les autres. C'est-à-dire, tu demandes pour les autres. Dans ta prière de supplication, tu peux aussi être intercesseur. Tu supplies pour les autres. Je supplie le Seigneur pour celui-là qui est en agonie à l'hôpital. Ce n'est pas vous-même qui êtes en agonie, mais vous suppliez pour quelqu'un d'autre. Et donc, même dans la prière de louange, je peux louer le Seigneur pour les biens qu'il a accomplis dans la vie de l'autre. Et donc là, ma louange fait de moi aussi intercesseur. Il ne faut pas louer seulement pour ce que vous recevez vous-même. Vous pouvez louer pour ce que le Seigneur a donné à l'autre. De même aussi, l'action des grâces. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de l'autre, ce que nous faisons pendant la messe. Quand le prêtre offre une action de grâce spéciale pendant la messe, mais il intercède. Voilà pourquoi je dis la prière d'intercession est transversale. Donc c'est une attitude de prière qui intervient dans les différentes formes de prière que l'Église nous propose. Est-ce qu'elle est difficile? Ça ne devrait pas être difficile. En fait, tout catholique est intercesseur. Vraiment. À moins qu'on ne comprenne pas bien les prières catholiques. Quand vous dites « Notre Père », mais vous êtes en train d'intercéder. La prière de « Notre Père » est une prière d'intercession. Parce que tout est au pluriel dans la deuxième partie. « Donne-nous notre pain ». Ça signifie que je demande pas seulement mon pain, je demande aussi à Dieu de donner le pain, ce qu'il faut, à d'autres personnes. Pardonne-nous nos offenses. Donc j'intercède pour qu'il pardonne les offenses, non seulement les miennes, mais celles des autres aussi. Ne nous laisse pas entrer en tentation. J'intercède pour que d'autres ne tombent pas non plus dans les pièges de Satan. Mais délivre-nous du mal. Donc c'est à la fin, je demande la délivrance, non pour moi-même, mais pour tous. Donc en fait, tout catholique est un intercesseur. Les prières catholiques sont des prières d'intercession. Et la prière de « Je vous salue Marie », c'est une prière d'intercession. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est-à-dire, je lui demande de prier pour moi et de prier pour les autres aussi. Priez pour nous. Et c'est une prière d'intercession. Donc, les catholiques sont éduqués à intercéder. Donc, nos prières nous éduquent à être des intercesseurs à tout moment. Parce que nous ne prions pas pour nous-mêmes, nous prions toujours en parlant de nous. Et la messe, c'est la même chose. C'est une prière d'intercession que nous proposons au Seigneur pour l'humanité, même pour ceux qui sont partis. Alors, que demander? Bon, voilà pourquoi il faut demander la volonté de Dieu. Jésus nous dit tout. Dans sa supplication, Jésus offre au Seigneur, je crois qu'on reviendra là-dessus le jeudi, à Gethsémani, Jésus prie son Père. Et la prière de Jésus à Gethsemane, ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière de supplication. Parce que le danger est imminent. Il sent que Judas est en train de venir avec la police du temple pour l'arrêter. Alors, il est en train de supplier le Père. Donc, ce n'est pas la demande, c'est la supplication. Et il dit, « Père, que cette coupe passe. » Mais Jésus reste ouvert à la volonté de Dieu. Non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Donc, que ce soit la demande ou la supplication, ça doit toujours nous ouvrir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi celui, le psalmiste du psaume 26 dit, « Je vais habiter la maison du Seigneur pour chercher ta face. » Chercher la face du Seigneur, c'est ça aussi, c'est chercher sa volonté en fait, pour découvrir qu'est-ce qu'il veut dans notre vie. Le support de la foi. Bon, ici je comprends ce qu'il veut dire, hein, si ce n'est pas tellement ce qu'il voudrait exprimer, qu'il m'en excuse, mais en fait, nous avons une expérience spirituelle déjà avec notre Dieu. Quand je dis que la prière des demandes se caractérise par un besoin spirituel ou matériel, par la foi en Dieu, c'est-à-dire que je me tourne vers Dieu parce que je sais ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Et c'est ça le support de la foi. Je crois en lui, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je me tourne vers lui. Je sais que j'ai eu déjà à prier le Seigneur et il ne m'a jamais déçu. Et c'est ça ce qui motive notre foi. C'est que nous connaissons Dieu. Nous avons déjà l'expérience. Nous avons eu à prier Dieu. Et en le priant, nous avons bénéficié de sa merveille. Voilà pourquoi je continue à croire qu'il va accueillir ma prière de demande.
On écoute.
Bonjour, Radio Maria. Bonjour, Père Roger. Et merci pour la catéchèse. Je voudrais poser mes quelques questions. La première consiste à vouloir demander par rapport à la communion des saints dans la prière, ou alors leur intercession. S'il est possible de passer du temps par Jésus, ou de s'adresser directement à Dieu, pardon, ou de passer par l'intermédiaire de Jésus, pourquoi encore aller auprès des saints, leur demander l'intercession ou Marie? N'est-ce pas une façon d'encombrer une prière? C'est de la part d'une expérience personnelle que j'ai fait. Parfois, quand je prie et que je m'adresse directement à Dieu, s'il faut encore prier le saint, j'ai comme l'impression que je suis en train de m'embrouiller dans les prières. De m'éclairer là-dessus, mon Père. La deuxième question, je voulais savoir, toujours par rapport au saint, comment l'Église sera sûre telle qu'un tel saint est au ciel? La canonisation, comment l'Église est-elle sûre que les saints qui vont canoniser est au ciel, de façon à avoir la confiance quand le prêtre pourra intercéder à main auprès de Dieu? Merci une fois de plus, c'est Séverin depuis Bukavu.
Merci à Séverin depuis Bukavu.
Bon, finalement, ceux des stations provinciales ou diocésaines interviennent déjà, comme Bukavu. Merci d'avoir fait signe de vie. Nous savons que vous nous suivez à Bukavu. Alors, la communion des saints, est-ce que ça peut embrouiller tout ça? Bon, Séverin, bon, je suppose qu'il est catholique, même s'il n'est pas catholique, mais en fait, c'est tout à fait simple. C'est tout à fait simple, pourquoi? Parce que il y a des entités célestes. Ça, toutes les églises le savent. Qu'il y a des anges, il y a des archanges. Et nous, nous ajoutons, il y a des saints qui sont au ciel. Voilà pourquoi je commence par la deuxième question. Je voudrais que Séverin soit convaincu qu'il y a des saints qui sont au ciel. Comment nous le savons? C'est parce que avant qu'on ne béatifie quelqu'un, et surtout avant la canonisation, on exige toujours des miracles. Et ce sont ces personnes qui nous ont quittés, qui sont mortes en odeur de sainteté, qui, par leur intercession, permettent à Dieu, à Jésus, d'accomplir des miracles dans notre vie. Il y a des preuves, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui ont les cancers. Il a prié par l'intermédiaire d'un saint, d'une personne décédée, que l'Église présente déjà comme vénérable ou bienheureux. Et puis, la personne décédée, n'est-ce pas, qu'il a invoquée, attire sur celui qui est dans le besoin les grâces du Seigneur, et puis il est guéri. Donc, il y a des choses pareilles. Il y a des miracles incroyables dans l'Église, vous savez. Des guérisons incroyables. Alors, si la personne dit, j'ai été guéri parce que j'avais prié tel bienheureux, tel vénérable, l'Église mène des enquêtes. Si on voit que, bon, c'est clair que les miracles authentiques, bon, la personne peut être béatifiée, elle peut être aussi canonisée. Donc, il y a des enquêtes préalables. Et puis, on exige aussi des miracles, des signes surnaturels. Pour que les papes, se basant sur cela, après des enquêtes nécessaires, puissent béatifier ou canoniser la personne. Donc, sur ce point-là, l'Église ne se comporte pas à la légère. L'Église est très rigoureuse là-dessus. Vous voyez, il y a même des papes qui ne sont pas des saints. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complicité. Il y en a qui sont saints, d'autres bienheureux. Il y a d'autres papes qui ne sont même pas bienheureux. Ça veut dire qu'il y a du sérieux par rapport à cela. Donc, il y a des entités célestes, des anges, des archanges. Ceux qui sont morts en odeur de sainteté sont au ciel. Et le bon larron est où? C'est la question que moi je peux vous poser. Le bon larron, c'est lui à qui Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il est au paradis. Le bon larron est au paradis. Et les livres de l'Apocalypse nous montrent déjà, nous donnent une vision du paradis. Où il y a ceux qui ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont au ciel, selon l'Apocalypse. S'ils sont au ciel, c'est qu'ils sont vivants. S'ils sont vivants, nous pouvons solliciter leur intercession. D'autant que, là au ciel, selon l'Apocalypse, ils sont en train de louer. Ils louent Dieu. Ah bon, comme ils louent Dieu, nous leur demandons de prier pour nous. Dans leur louange à Dieu qui se rappelle aussi de nos besoins ici sur terre. C'est ça dont j'ai répondu déjà à ces deux questions, je crois. Mais j'insiste sur la première question, communion des saints. C'est parce qu'il y a des saints au ciel. Je vous ai montré comment est-ce que l'Église procède. Il ne se comporte pas à la légère. Quand on béatifie quelqu'un, c'est du sérieux. Quand on canonise, c'est du sérieux parce qu'il y a eu des miracles. Alors, maintenant, est-ce que ça peut vous embrouiller? Mais ça ne doit pas vous embrouiller parce que, dans tous les cas, les saints intercèdent pour tout le monde. Ils intercèdent pour les catholiques et pour les non-catholiques. Ça, c'est sûr. Même ceux qui ne croient pas à l'intercession des saints bénéficient des grâces qu'ils obtiennent par l'intercession des saints. Ils n'attendent pas que nous leur demandions de prier pour nous. Parce que déjà au ciel, ils sont en train de prier. Vous voyez l'Apocalypse, c'est ça. Ils sont là, des milliers et des milliers qui sont au ciel là. Plus de 144 000. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils sont en train de louer Dieu et leurs louanges font tomber sur nous des grâces divines. Alors maintenant, pour les catholiques, ça n'embrouille pas. L'Église nous donne la possibilité de nous adresser directement à Dieu le Père. La prière de notre Père, c'est la prière que Jésus nous a laissée. Et dans cette prière-là, ce n'est pas Jésus qui est le médiateur. C'est nous-mêmes, nous nous adressons directement au Père, sans passer par Jésus. Il y a des prières pareilles dans l'Église catholique, c'est comme le Notre Père. Il y a des prières où vous vous adressez directement à Jésus. Il y a des prières où vous vous adressez directement à l'Esprit-Saint. Et personne ne vous empêche de le faire. Il y a des prières où vous passez par les saints, par les bienheureux, par les archanges, par les anges. Donc l'Église nous donne toutes ces possibilités-là. Et tout ça, c'est pour notre bien.
Bonjour Père et Maman Régine. Si je demande à Dieu pour qu'il me donne l'argent afin que je puisse soutenir aussi les autres, mais la demande ne se réalise pas toujours, ça sert à quoi de demander ici? Est-ce que c'est une fausse demande ou ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Et quelles sont les expressions qui accompagnent la prière de demande, d'adoration, de louange, de supplication? C'est Delphine depuis la paroisse Sainte-Marthe à Taipei.
Merci beaucoup. Il y a pratiquement deux questions. Il demande l'argent, mais l'argent ne vient pas. Bon, moi, je voudrais dire ceci. Je l'ai déjà dit, on demande toujours en étant ouvert à la volonté de Dieu. Donne-moi l'argent si telle est ta volonté. Au lieu de te donner l'argent, peut aussi te donner un travail. Parce que le problème chez nous, c'est que nous sommes des humains. Parfois, les besoins sont pressants. Nous voulons la réponse immédiatement. tu demandes l'argent, Dieu peut te donner le travail. Et si tu commences à travailler, bon, tu auras l'argent à la fin du mois. Dans 30 jours, probablement, tu auras l'argent. Il faut toujours être ouvert à la volonté de Dieu. Tu demandes l'argent, lui, il te donne un emploi. Voyez-vous, l'emploi qui est rémunérateur te permet de ne pas manquer les minimums nécessaires. Il peut vous donner plus. Alors, n'oubliez pas, comme nous sommes des catholiques, l'intercession de ces saints-là. Saint Joseph, parce que les saints ont leur particularité. Saint Joseph, pour les pères de famille, accomplit beaucoup de miracles. Saint Joseph, un père de famille qui demande à Dieu par l'intercession de Joseph, pour qu'il ait ce qu'il faut pour sa famille, pour ses enfants, Joseph agit. Même Saint Jude aussi, les saints des cas désespérés, demandés par leur intercession. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes ici sur terre, nous sommes dans notre corps, comme Paul nous le rappelle ces jours-ci dans la lettre aux Romains, le corps qui a ses pesanteurs, qui parfois nous attire vers ce qui est charnel. Et tout ça, ce sont des pesanteurs qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'adresser au Seigneur des prières qui peuvent lui être agréables. Voilà pourquoi nous passons par les saints. Les saints sont des âmes déjà purifiées. Ils peuvent intercéder pour nous. Voilà, c'est ce qui justifie la communion des saints. Pour répondre aussi à Séverin qui a posé la question à partir de Bukavu tout à l'heure. Parce que nous avons des pesanteurs. Parfois, nous prions, mais nos prières ne sont pas agréables parce que nous sommes ce que nous sommes, des pécheurs. On passe par ces âmes déjà purifiées qui sont au ciel. Et leur intercession peut nous apporter beaucoup de grâce. Vous avez Saint Joseph, vous avez Saint Jude, vous avez Antoine de Padoue. Parce qu'Antoine de Padoue, il y a des choses perdues, mais aussi des besoins matériels. Vous avez Rita de Cacha, pour ne citer que ceux-là. Et donc, passez aussi par l'intermédiaire des saints. Si vous osez, et ça ne marche pas, faites des neuvaines aux saints, par leur intermédiaire, et vous serez surpris agréablement.
Bonjour la radio et le Père Roger, merci pour la catéchèse du jour. Nous vous suivons depuis Mbujimayi, c'est Stanis Lukusa de la paroisse Saint-Christophe.
Merci beaucoup à notre frère depuis Mbujimayi. Hein.
On va écouter un message de
Mbujimayi. Bonjour la radio Marial, bonjour Père Roger, bonjour Maman Régine. Je suis Edouard Moussambo depuis Colosie. S'il vous plaît, j'aimerais un peu savoir. Vous parlez de saint Marie, la Vierge Marie, au ciel où elle est. Elle occupe la place unique ou bien elle occupe la même place que les autres saints? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, ça paraît un peu hors sujet, mais parfois je me pose un peu des questions par rapport à ça. Entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, quelle est celle qui a quitté l'autre? Merci beaucoup. Encore une fois, c'est Edouard Moussambo depuis la ville de Colosie.
Merci à Edouard.
Oui, la première question, c'est la Vierge Marie, hein?
Oui.
La position qu'elle occupe, n'est-ce pas? Bon, évidemment, nous les humains, nous parlons parfois en termes de protocoles protocolaires qui occupent la première place et qui est proche de l'autre. Ça, c'est un langage humain. Vous savez, le ciel, ce n'est pas un lieu, mais c'est un état. Un état de bonheur parfait et définitif. C'est ça le paradis, hein? D'après la définition du catéchisme de l'Église catholique. Et donc, Marie, il ne faut pas la situer géographiquement. Parce que non, il n'y a pas de paradis au sens géographique. Le paradis, c'est une réalité spirituelle. Un état de bonheur parfait et définitif. Les âmes qui sont au ciel, dans cet état de bonheur parfait et définitif, sont en communion avec Dieu. Communion profonde avec Dieu. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on peut dire. La Vierge Marie, en vertu de sa mission de Mère de Dieu, c'est elle qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, on suppose qu'il occupe une position particulière. Dans cette communion des saints, la communion avec Dieu, la Mère de Dieu occupe une position particulière. Laquelle, bon, on ne saura pas spéculer là-dessus, mais on sait que non, sa proximité avec Dieu est exemplaire. C'est une proximité exemplaire. Alors maintenant, la deuxième question, bon, c'est le Père Ménan, en fait, qui relance tous ces débats-là dans TikTok. Bon, lui, il est orthodoxe. Il dit que, bon, c'est l'Église catholique, l'Église romaine qui a quitté la... Bon, ça, non, ça ne peut pas se comprendre ainsi. Hein, donc, je ne partage pas ce point de vue-là. Parce que le Père Ménan sait bien que au début, dans l'Antiquité, il y avait Rome, il y avait Alexandrie, il y avait Syrie, il y avait Jérusalem et Constantinople. Donc, cinq pôles. On peut même parler des quatre pôles. Mais ajoutons aussi Constantinople, qui est venu un peu après. Mais tous les évêques qui occupaient ces sièges-là, mais ils reconnaissaient la primauté du pape, de l'évêque de Rome. Si vous lisez Saint Corneille, il le dit clairement. Corneille qui était l'ami du pape... non, je parle de Cyprien. Cyprien qui était l'ami de Corneille, mais il a écrit ça. Sur le fait que il y a les évêques, cinq évêques, qui étaient des évêques reconnus dans le monde à l'époque, mais étant donné que l'évêque de Rome est au siège où qui était occupé par Pierre, ça va de soi qu'il y avait la primauté de l'évêque de Rome. Et c'est la primauté de l'évêque de Rome qui fera qu'ils prennent les dessus sur tous les évêques du monde. Comment vous allez dire qu'il a quitté l'Église? Il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. C'est vrai que ces églises avaient une certaine autonomie. Ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Ils avaient une certaine autonomie. Alors, mais qui a quitté? Parce que Jérusalem n'avait pas quitté. La Syrie n'a pas quitté. L'Afrique du Nord, Alexandrie n'avait pas quitté. C'est Constantinople qui a quitté. Et c'est de là qu'est née l'Église orthodoxe. C'est ça, en fait, la réponse que je peux vous donner.
Merci, Père. C'est la fin de la première partie, un dernier mot.
Merci beaucoup pour cette catéchèse, hein, pour votre contribution, Maman Régine et tous les techniciens, tous ceux qui ont pu appeler, tous ceux qui ont suivi. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur exauce nos prières de demande. Par l'intercession de sa mère et notre mère, la Vierge Marie, par l'intercession de Saint Jude, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, le saint des cas impossibles et désespérés, que le Seigneur exauce toutes vos prières de demande.
Merci beaucoup, Père Roger. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci à l'équipe technique d'Eroc Mamba et aussi Radi qui a assuré la régie de cette émission. Père Roger, la prière pour clôturer cette première partie.
Volontiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Nous allons nous tourner vers le Père avec les mots, les paroles que Jésus nous a confié, c'est-à-dire la prière de notre Père, qui est une prière de louange, mais aussi prière de demande, demande d'ordre spirituel et matériel. En priant le Notre Père, en communion avec tous les chrétiens, catholiques et non catholiques, nous demandons au Seigneur de nous exaucer, qu'il nous exauce, qu'il nous donne le pain dont nous avons besoin, pas seulement à moi, mais à nous tous. Et qu'il nous pardonne, qu'il nous préserve devant les pièges du Satan, qu'il nous délivre de tout mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour le siècle des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la Reine du Ciel, la Vierge Marie, par l'intercession de Saint Jude, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, et de Saint Simon, le Zélote, vous accorde à travers cette bénédiction toutes les grâces dont vous avez besoin. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.